Au même moment, il y a des parents et des grands-parents qui ont appris que la chair de leur chair était décédée.
C'est une deuxième séquence qui s'est ouverte avec vraiment encore plus de mystère qu'avant.
À attendre que les journalistes aient quitté la zone et à ce moment-là, ils retournaient en étant le seul journaliste et plus la meute de journalistes au milieu des quelques habitants du Vernet.
Très vite, ouais. On se dit que c'est la personne à trouver, c'est la randonneuse.
On raconte une scène assez terrifiante où elle sait qu'elle transporte le crâne de ce si beau petit garçon.
La mise en situation n'apporte directement aucun indice aux enquêteurs. Les questions que l'on se pose depuis 9 mois n'ont toujours pas de réponse. Mais tout bascule 3 jours plus tard, le dimanche 31 mars, le dimanche de Pâques.
Une information vient de nous d'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés.
J'étais en route pour la rédaction puisqu'on devait enregistrer l'émission Affaires suivantes sur Émile.
Boris Karlamov, envoyé spécial pour BFM TV, connaît bien le village. Depuis la disparition d'Émile, il y passe une semaine chaque mois.
Puisque le jeudi de la même semaine, il y a eu cette grande mise en situation avec 17 personnes présentes au hameau pour rejouer un peu les minutes précédant la disparition et les minutes qui ont suivi la disparition. Je suis en route pour la rédaction et là, c'est la rédaction en chef du jour, donc Caroline Garvey, qui m'appelle en me disant qu'on a reçu un communiqué de presse de la part du procureur d'Aix-en-Provence. Sur le moment, j'ai un peu du mal à y croire quand même. Donc, je rouvre rapidement mes mails. Et effectivement, il y a ça. Il y a une personne de BFM qui pensait que c'était un poisson d'avril, ce communiqué. Donc, on a même douté pendant quelques minutes de la véracité de ce communiqué pendant peut-être 2 minutes. Et puis, après, ça va très vite. Donc, on a démarré une émission, c'est une édition spéciale assez rapidement autour de 12h30 avec Benjamin Duhamel.
Édition spéciale sur BFM TV avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le corps du petit Émile a été retrouvé, des ossements qui ont été retrouvés par un randonneur dans le hameau du Haut-Vernay.
Mais je crois que j'ai mis peut-être 3-4 heures à réaliser en fait ce qu'on avait peut-être le fin mot de l'histoire. Parce que c'est tellement un dimanche de Pâques et puis la symbolique est tellement forte.
C'est un coup de tonnerre.
Nouvelle, voilà, c'est un coup de tonnerre, Benjamin, parce qu'effectivement, on n'avait plus beaucoup d'espoir de revoir vivant le petit Émile. La seule question qu'on se posait, c'était où est-il? Où est son corps? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, on a un début de réponse.
J'étais en Normandie, en week-end de famille avec mes enfants. Et je reçois l'alerte.
Pauline Revenat, chef du service police-justice à BFM TV.
Et je dis à mes enfants, je crois que je vais rentrer bosser. Donc on était en week-end de famille et tout. Et donc moi j'ai 3 enfants qui ont 8, 12 et 14. Et donc je m'enferme dans la voiture avec eux. Et je leur dis, on a retrouvé les ossements d'Émile. Et là pendant 10 minutes, ils m'ont posé 48 254 questions, à peu près comme vous. Donc ils m'ont dit, et c'était les bonnes questions. J'étais hyper fière de mes enfants enquêteurs. Ils m'ont dit, qui a retrouvé le corps? Qui a prévenu la famille? À quel endroit est-ce qu'on l'a retrouvé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher là? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas cherché là? Est-ce que tu penses que le corps a pu être déplacé? Est-ce que ça peut être un animal? J'ai dit, bah alors, je vais repartir avec toutes ces questions. Je vais rentrer à la rédaction, je vais travailler. Et puis, donc, moi, je suis arrivée, c'est Dominique Rizet, Boris Karlamov et Vincent Ventigem qui ont pris l'antenne juste après le communiqué du PROC et qui ont tenu l'antenne de 13h à la soirée. Et moi, je suis arrivée le lendemain. Et donc, toutes ces questions que s'étaient posées mes enfants, bah, c'était les questions qu'on se posait sur les plateaux. Et le procureur a essayé d'apporter quelques réponses, mais au final, je ne suis pas sûre qu'il ait répondu à toutes les questions.
Donc, je suis avec mon fils,
Valentin Doyen, c'est le chef de bureau à BFM d'ici, la chaîne d'actualité locale dans les Alpes de Haute-Provence.
On est dans la voiture, on se déplace à un endroit en famille, dans le Var, et je ne veux pas y croire. Et très vite, j'y crois, en voyant le communiqué. Le jour de la disparition d'Émile, j'étais en congé. Le jour où, malheureusement, on retrouve ce petit garçon, j'attaque des congés. Évidemment, pas de chasse aux œufs avec mon fils et évidemment l'abandon de ma famille. Alors, c'est très compliqué, mais on relativise très vite. Pourquoi? Parce que c'est notre métier et parce qu'on se dit qu'au même moment, il y a des parents et des grands-parents qui ont appris que la chair de leur chair était décédée. Donc, très vite, on se dit qu'il y aura d'autres dimanches de Pâques. Pour moi, mais peut-être pas pour eux.
Ce jour-là, je suis chez moi, je suis censé ne pas travailler, mais évidemment, quand je vois ça, je me doute qu'on va en faire beaucoup et qu'on a besoin de renforts.
Maxime Brandstetter, journaliste police-justice à BFM TV.
Donc je me propose à la chef du service police-justice, Pauline Revenat, de venir en renfort. Et donc je débarque à la rédaction, je pense, en début d'après-midi, pour enchaîner jusqu'à la fin de soirée.
C'est une famille qui est extrêmement religieuse et la famille a appris la découverte des ossements à la sortie de la messe. Donc les enquêteurs ont pris le temps de les laisser faire leur messe de Pâques et puis leur annoncer la terrible nouvelle à la sortie de la messe. On est une famille qui pratique énormément la religion, qui se sont réfugiés dans la religion depuis le début de cette affaire et chacun a une pratique assez rigoriste de cette religion. Donc le symbole qu'on retrouve les ossements le dimanche de Pâques, là c'était un peu perturbant, autant pour la famille forcément que pour les journalistes.
Mais on se raccroche à ce qu'on peut. Moi, je peux pas me soulager qu'un enfant de 2 ans et demi soit retrouvé mort. C'est impossible pour moi. Ça a été terrible. Voilà. Après, voilà, je peux pas dire que c'est terrible pour moi quand j'imagine ce que vivent les proches de ce petit garçon. Donc non, ça a pas été un soulagement. Par contre, je me suis dit là, ça y est, on va savoir ce qui s'est passé. L'important, c'est de savoir ce qui lui est arrivé. Voilà, et les enquêteurs ont toujours été très clairs là-dessus. Hein. Quand il n'y a pas de corps, c'est très compliqué, mais un corps parle.
Donc ça fait déjà une énorme partie du mystère résolu. Mais en même temps, il y en a une toute autre qui reste, c'est qu'est-ce qui a pu causer sa mort? On sait qu'on l'a retrouvé, on sait qu'il est mort, mais on ne sait pas ce qui a entraîné sa mort.
Et puis il y a énormément de questions qui reviennent. Est-ce que ce crâne, il a été déposé là, puisque ce chemin, il était régulièrement emprunté par des cueilleurs de champignons, des randonneurs, etc. Et personne n'a rien vu. On sait qu'il y a eu des fortes intempéries les semaines du mois de décembre, etc. Donc est-ce que ce crâne a été amené là par l'eau de la montagne qui coulait vers la vallée? Il y a eu encore plus de questions ce jour-là qu'on en avait auparavant. Là, ça a été le flou total. Dans la tête des journalistes qui suivent cette affaire-là, en fait, là, on repart de zéro. Enfin, moi, je me suis dit, on repart de zéro. Il y a beaucoup trop de questions aujourd'hui. Ce crâne, il sort d'où? Il vient d'où? Il a été déposé comment, etc.? Est-ce que c'est un loup, etc.? Et là, ça a été... c'est une deuxième séquence qui s'est ouverte avec vraiment encore plus de mystère qu'avant. On apprend que les ossements ont été retrouvés. Là, c'était la stupeur. C'était assez bizarre comme journée, quand même. Il y avait toujours cette volonté avec ma collègue Célia Vallée d'aller rapidement sur place pour pouvoir être aux côtés des habitants déjà, puisqu'il y a forcément un lien qui s'est installé. Et là, on sort de notre rôle de journaliste, vraiment, d'être à leur côté dans ce moment douloureux, déjà, et puis essayer d'avoir des informations pour pouvoir alimenter l'antenne et donner la meilleure information possible, quoi.
En fait, on a des ossements qui partent dans des hélicos. On apprend qu'il y a un pont aérien qui est parti pour l'emmener au labo. Ensuite, il y a un retour du labo, donc il faut attendre aussi le retour, se demander les ossements sont lisibles, entre guillemets, et qu'est-ce qu'ils veulent bien dire.
Les premières analyses du crâne ont permis de révéler les informations suivantes. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme antémortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Une maxillaire est absente, sans que l'on puisse savoir aujourd'hui si cette maxillaire s'est détachée naturellement ou sous la force d'une traction. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Enfin, et c'est là l'important, ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil.
La découverte des ossements va réouvrir un champ de questionnement qui va, je dis, un peu s'éclaircir avec les explications du procureur, mais finalement pas tant que ça.
On apprend que ce crâne, il a été retrouvé à même le sol et non pas enfoui et enterré. On apprend qu'il y a d'autres ossements qui ont été retrouvés, il me semble une dent, etc. Les habits, certains habits du petit Émile qui ont été retrouvés à quelques centaines de mètres. On n'est pas très loin du hameau, mais on n'est pas à côté non plus, puisqu'il y a une distance de 2,7 km à vol d'oiseau, donc entre le lieu de la découverte et le hameau. Puis surtout, on se dit que c'est une zone qui a été ratissée. Et puis nous, on a pu le voir. Elle a été sur-ratissée, cette zone, entre les battues citoyennes, les gendarmes, les hélicoptères, etc. On se dit, mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ce crâne si le crâne avait été présent dès le départ?
Il raconte qu'effectivement, c'est une femme qui faisait de la randonnée, qui a découvert le crâne. Il dit quelque chose qui a d'ailleurs fait tiquer tous les journalistes de la salle, c'est qu'il dit qu'elle l'a ramené chez elle et qu'elle a appelé les gendarmes. Ça, c'est quelque chose qui a énormément interpellé. Il dit que voilà, cette femme a trouvé le crâne, l'a ramené chez elle, a appelé les gendarmes et leur a donné.
Très vite, ouais. On se dit que c'est la personne à trouver, c'est la randonneuse.
Parce que c'est quand même moins important dans cette affaire. Puis il y a des gens qui ne croient absolument pas à la thèse de l'accident, qui restent persuadés que c'est une thèse criminelle qui va refaire surface. Puisqu'ils nous disent, moi ce con-là, je vais chercher les champignons tous les 3 mois pendant l'automne, le printemps. Ce chemin, je l'emprunte régulièrement et jamais je n'ai trouvé un seul ossement. Et puis ils nous disent, ce crâne posé à même le sol, comme s'il y avait une volonté qu'on le trouve, alors qu'on n'a jamais trouvé un seul ossement en 9 mois. Et puis il y a aussi des questions sur la randonneuse, qui est cette personne. Comme par hasard, elle va accueillir des champignons là, elle trouve un crâne. En plus, elle n'appelle pas les gendarmes hein, directement, elle le ramène chez elle et puis les gendarmes arrivent. Mais il y a énormément de mystères autour de la randonneuse. Et puis sur le timing surtout, sur la période de Pâques. La mise en situation, ça interroge énormément de monde. Beaucoup de gens se demandent, mais est-ce que la mise en situation a servi à ce qu'on fasse éclater la vérité? Est-ce qu'il y a un témoin qui a paniqué lors de la mise en situation, qui a vu que l'étau était en train de se resserrer sur lui et qu'il s'est débarrassé des ossements? Ça, c'est une théorie que j'ai pu entendre tous les jours pendant une semaine. Cette histoire de calendrier, de timing, on est 3 jours après la mise en situation où les moyens sont considérables et où on approche peut-être de la vérité. Et puis on arrive à retrouver tes ossements 3 jours après, quoi. Comme si vraiment la personne incriminée sentait que l'étau était en train de se fermer sur lui, qu'il fallait vite se débarrasser des ossements pour avoir une chance de passer au travers des mains filiées.
Il y a cette fameuse randonneuse, c'est elle qui fait la découverte, mais du coup c'est la personne la plus recherchée de France finalement, parce qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on ait le témoignage de la randonneuse.
L'histoire de la randonneuse, c'est à la fois fascinant et mystérieux, parce que nous, on va dans le village, on demande mais qui est cette randonneuse, comme l'ensemble des journalistes d'ailleurs, puisque c'était vraiment la personne qui était recherchée par toutes les rédactions de France, et même par les rédactions étrangères.
C'est elle qui apporte la moitié de la réponse. Et donc, forcément, à ce moment-là, tous les médias de France, et même d'ailleurs de l'étranger, hein, je crois qu'il y avait des médias étrangers, veulent absolument retrouver qui est cette randonneuse et avoir son témoignage, son récit de cette journée, d'autant plus que le procureur n'en a fait qu'un récit parcellaire. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait, pour trahir les secrets, on fait un groupe WhatsApp où je suis dedans avec tous les duos de reporters JRI de BFM TV et on échange toutes les informations qu'on peut avoir, moi depuis Paris et eux depuis le terrain, pour essayer d'identifier la randonneuse. Et on voit bien que tout le monde y va de sa théorie, qu'on a plein de pistes, mais finalement pas beaucoup de pistes sérieuses et que ça a l'air d'être un peu le cas pour tous les autres médias. Il se passe un certain temps où visiblement... C'est un échec, je veux dire, on n'arrive pas à la retrouver, mais aucun autre média n'arrive à la retrouver.
Personne ne la connaît. Donc nous, on nous amène sur une fausse piste, on va vite fermer cette fausse piste. Cette fausse piste, ça nous a pris énormément de temps, 2-3 jours pour vraiment vérifier l'identité qu'on nous avait donnée, etc. Et ça a été un travail à plusieurs équipes d'ailleurs pour qu'on puisse baliser toute la région et tout le département sur ça. Et puis on se rend compte que non, cette dame-là était aussi victime de la rumeur et qu'elle n'était absolument pas présente à ce moment-là. Donc là, et puis après, on a d'autres éléments qui nous reviennent aux oreilles.
Et alors, je dis au rédacteur en chef que je pense qu'il faut y retourner au moment où l'affaire se sera calmée, c'est-à-dire attendre que les journalistes aient quitté la zone et à ce moment-là y retourner en étant le seul journaliste et plus la meute de journalistes au milieu des quelques habitants du Vernet.
On missionne Maxime Brandstetter et je lui dis ta priorité c'est ça, tu n'as qu'un seul objectif. D'ailleurs, je lui dis, tu ne descends pas pour faire des duplex, je ne veux pas te voir en duplex, tu grenouilles, tu cherches la randonneuse. Tu fais ton tour, tu parles aux gens, tu fais ton enquête, mais surtout tu ne fais pas de duplex, parce que les duplex c'est très chronophage. Et il y avait déjà d'autres équipes qui le faisaient, mais lui, il était entièrement dédié à l'enquête.
J'y vais avec Clément Granon, qui est journaliste reporter d'images à Ligne Rouge. On y va tous les deux avec cet objectif qui est, à ce moment-là, un objectif absolu, qui est de retrouver cette randonneuse, qui est un objectif qu'on imagine extrêmement difficile, parce que si tous les journalistes n'ont pas réussi à la trouver, c'est que forcément elle est très très dure à trouver. Il y a beaucoup de journalistes excellents dans toutes les chaînes radio et presse écrite, et on se doute qu'elle est bien cachée. Donc on y va un peu avec cette énergie du désespoir, où on se dit, bon, il y a peu de chances que ça marche, mais au moins on veut essayer. On arrive sur place, on commence à rencontrer quelques personnes pour discuter. On fait ce qu'on fait au début d'une enquête quand on n'a pas grand-chose à creuser, c'est-à-dire qu'on va dans les quelques restaurants et bars ouverts. Et là, on discute avec les gens, les habitants, on échange, on se présente comme les journalistes. On nous dit « Ah, bah, on pensait que tous les journalistes étaient partis. » On dit « Bah nous, on est toujours là, etc. » Et au fur et à mesure, on discute, voilà. Tout d'un coup, effectivement, on arrive à avoir une information qui nous permet d'identifier la randonneuse. Tout d'un coup, on a effectivement beaucoup d'espoir. On passe de l'énergie du désespoir à... On sent que ça peut être probable. Pour être tout à fait transparent avec vous, on a une identité, mais on n'a pas d'adresse. Une adresse qui n'est pas forcément trouvable immédiatement. Donc on va mettre un peu de temps à réussir à associer la maison qui correspond à l'identité qu'on a. Et c'est un peu au hasard, à force de sonner à des portes, qu'on tombe... On tombe sur quelqu'un, au départ on ne sait pas que c'est elle, mais en échangeant 2-3 mots, on comprend qu'elle est la randonneuse et elle comprend qu'on est des journalistes. Je lui dis que je cherche telle personne, elle me répond « Oui, c'est moi, qu'est-ce que vous lui voulez ?» Je lui réponds qu'on est journaliste et effectivement, là, elle commence par me dire qu'elle ne veut pas parler, que si elle se cache, c'est pour une bonne raison, qu'elle a une personnalité qui fait qu'elle préfère vivre tranquille à l'abri des regards et qu'elle n'a absolument pas envie de se montrer dans les médias. On est dans l'entrebâillement de sa porte, il pleut des cordes et elle nous regarde par l'ouverture de la porte sans ouvrir. On échange quand même avec elle, quelques mots, elle nous dit qu'elle ne veut pas parler, on lui explique pourquoi on pense que c'est important qu'elle apporte sa clé de l'histoire. Et ce qui va être l'élément déterminant, c'est lorsqu'on va évoquer, lui demander pourquoi elle l'a ramenée chez elle. Parce que même si elle aime être tranquille, elle dit qu'elle a été beaucoup affectée par certains commentateurs qui ont dit « voilà, c'est n'importe quoi, pourquoi elle a pris ce crâne, elle l'a ramené chez elle, elle aurait dû le laisser sur place, elle n'aurait pas dû toucher la scène de crime ». Et elle a dit « ça, j'ai une très bonne raison de l'avoir ramené chez moi et ça, je veux bien vous l'expliquer ». Et donc à ce moment-là, elle accepte de nous ouvrir la porte. On rentre chez elle et c'est là qu'on va commencer à discuter avec elle. C'est une femme d'une soixantaine d'années qui n'a pas la langue dans sa poche, qui tient beaucoup à sa tranquillité. Si elle aime la région, c'est parce qu'elle aime se promener en montagne, être toute seule, faire des longues balades de plusieurs heures, voire d'une journée en montagne. Elle n'a pas de téléphone portable, elle n'est pas très connectée. Elle est veuve et elle a un sacré caractère, oui. On doit rester assez longtemps, je pense, une heure et demie ensemble. On discute de l'affaire, de ce qui s'est passé, mais on discute aussi de tout et de rien, d'elle, de nous. On boit un café, on échange.
Et il va réussir à tisser un lien de confiance qui va lui permettre que la dame lui fasse toutes les confidences possibles, lui explique surtout ce qu'elle faisait là-bas, comment est-ce qu'elle a retrouvé le crâne, pourquoi elle a ramené le crâne chez elle, etc. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prévenu les gendarmes.
Elle nous raconte que ce jour-là, elle était partie se promener en montagne, qu'elle part habituellement sans téléphone et sans montre, donc elle n'a ni téléphone ni montre, et qu'alors qu'elle est à peine partie, elle marchait depuis quelques dizaines de minutes en direction du Auvernais. Elle voit au milieu du chemin ce crâne tout propre, nous dit-elle, tout blanc, ce petit crâne blanc, et elle comprend immédiatement que c'est le crâne d'Émile. Suite à ça, elle décide de le ramener chez elle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'a pas de téléphone, ce qui veut dire qu'elle ne peut appeler personne. Mais surtout, elle nous explique que ce jour-là et cette semaine-là, principalement, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, qu'elle connaît la montagne, qu'il y a des éboulements, que d'ailleurs ce crâne n'était pas là la dernière fois qu'elle était passée sur chemin, donc c'est la preuve qu'il a été déplacé. Et elle se dit, si je pars et je rentre chez moi pour appeler les gendarmes, il ne sera plus là. C'est pour ça qu'elle décide de le mettre dans des sacs plastiques. Alors pourquoi elle avait des sacs plastiques ? Elle les utilise pour isoler ses pieds du froid lorsqu'elle monte assez haut ou qu'elle marche dans la neige. Elle prend ses deux sacs plastiques, elle ramasse le crâne et rentre chez elle en courant. Elle nous raconte une scène assez terrifiante où elle sait qu'elle transporte le crâne de ce si beau petit garçon qu'on a vu sur des tas de photos dans tous les médias, que ça la touche beaucoup, qu'elle alterne les phases où elle pleure, où elle essaie de se calmer, et en même temps, elle essaie de rentrer le plus vite possible. Elle court même pour aller chez elle, appeler la gendarmerie et leur remettre ce crâne. Elle leur dit qu'elle vient de retrouver un crâne. De ce qu'elle nous dit, ils ont l'air de tout de suite immédiatement considérer que c'est très important. Elle leur donne rendez-vous au coin de la rue, parce que c'est un petit village, elle ne veut pas que tout le monde sait dans cette région et dans tous les villages de la région que le petit Émile a disparu. Donc dans son village, on le sait aussi. Et elle ne veut pas que les voisins sachent que c'est elle qui l'a retrouvé. Donc elle leur donne rendez-vous au bout de la rue et elle finit par leur donner. Et les gendarmes l'emmènent avec eux pour l'entendre. Mais elle a une personnalité qui fait qu'elle est... très curieuse, très sympathique. Franchement, je l'ai trouvée assez sympathique, originale. Quand je sors de sa maison, je suis déçu de ne pas l'avoir convaincue de faire une interview. Parce qu'on est un média télévisé, que Clément Granon est un super journaliste reporter d'images et que je suis sûr qu'il aurait fait un travail formidable si on l'avait eu en interview, que ça aurait été plus fort, hein, il faut le dire. Mais elle ne voulait absolument pas, et comme je vous l'ai dit, elle a son caractère, c'était pas la peine d'essayer de la convaincre, je pense. Et donc, je suis déçu de ne pas l'avoir en interview, et en même temps, je pense que je ne me rends pas encore compte à quel point ce récit est important à ce moment-là, peut-être parce qu'on en a discuté pendant une heure et demie, et que pour moi, il n'y a pas... Enfin, voilà, c'est le récit de la randonneuse, mais... je sais pas, je pense que la déception de ne pas avoir l'interview prend le pas à ce moment-là, et c'est seulement après, quand je vais appeler ma chef adjointe du service police-justice, que, et en lui racontant ce qu'on a, que je vais prendre conscience que c'est sans doute des éléments d'information importants. Ouais. Bah parce que c'est la pièce du puzzle qui manque, c'est-à-dire qu'on sait que le crâne a été retrouvé, on sait que c'est celui du petit Émile, on sait qu'il avait disparu, alors on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui l'a tué, mais ça, de toute façon, personne n'a la solution, mais... comment il a été retrouvé, pourquoi elle l'a ramené chez elle, et aussi malheureusement, qui est cette randonneuse? Parce que, il faut le dire franchement, tout le monde y va de sa spéculation. Plus il y a d'émotion dans une affaire, plus les gens spéculent. Et le fait qu'elle ait ramené son crâne chez elle et qu'on n'ait pas l'explication à l'époque suscitait pas mal d'interrogations, voire même de soupçons. Et ben là, on a la réponse à cette affaire et on peut, je pense, l'innocenter totalement.
Et cette randonneuse-là a accepté de parler uniquement à BFM, puisqu'après, forcément, d'autres journalistes ont trouvé son adresse.
Et dès le lendemain matin, on voit tous les médias qui étaient partis la fin de semaine avant cette semaine-là, revenir, parce que tout le monde a vu qu'on avait le témoignage de la randonneuse, et on suppose que tous les rédacteurs en chef de tous les médias ont dit « Comment ça se fait que BFM TV a ce témoignage? Il faut que vous l'ayez aussi. » Donc ils sont tous revenus pour le retrouver, et c'est vrai qu'on revoit les journalistes arriver. Ils ont très très vite eux-mêmes trouvé l'adresse de cette femme. Je ne sais pas si c'est parce que ça commençait à savoir ou si c'est parce que dans les... Pourtant, on a essayé de cacher au maximum qui elle était et de cacher aisément pour la retrouver, parce que c'était sa volonté. Hein. C'est elle qui nous avait dit « je ne veux pas être dérangée ». Mais tous les autres journalistes qui sont revenus ont assez vite trouvé où elle habitait. Et ils étaient tous devant chez elle, assez tendus, à avoir sonné et frappé plusieurs fois pour essayer de la voir. Et visiblement, elle n'ouvrait plus du tout. À ce moment-là, justement, nous, on a voulu aller lui dire au revoir. Parce qu'on avait bien échangé avec elle, qu'elle nous avait confié son récit. Quelque chose qui n'a vraiment pas été facile pour elle. Hein. Faut imaginer comment ça l'a affecté de trouver le crâne de cet enfant. Mais lorsqu'on a voulu lui dire au revoir, il y avait plein de médias devant. Dès qu'on est approché de la porte, je pense qu'ils ont pensé qu'on allait faire une interview. Donc tout le monde s'est approché en masse pour essayer de faire l'interview avec nous. Et donc c'est vrai qu'elle ne nous a plus jamais ouvert la porte et elle ne nous a plus jamais recontacté. Voilà, on lui a laissé un mot pour lui dire que si elle voulait nous recontacter, nous, ça nous ferait plaisir, mais effectivement, depuis, elle n'ouvre plus à personne, apparemment.
Alors, il y a deux pistes aujourd'hui qui sont privilégiées, c'est la piste accidentelle et la piste criminelle.
Sans aucune certitude, l'accident, avec Émile qui disparaît seul, qui s'égare seul et qui meurt dans la nature. L'accident avec l'homicide involontaire, c'est-à-dire Émile qui aurait été victime peut-être d'un véhicule, puis déplacé, ou le crime, voilà. Trois grandes portes qui restent ouvertes.
La piste du loup refait surface aussi. Parce que quand on interroge des experts, etc., même des habitants, des gendarmes, ils nous disent qu'un loup aurait pu passer par là, prendre Émile dans sa gueule, et ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il s'est comme volatilisé au lavoir. Et ce loup, bien selon des experts des loups, nous disent en fait, normalement, un loup, il va se cacher dans la montagne, dans un endroit où il est assez tranquille pour pouvoir après faire le pire à cet enfant. Donc c'est pour ça que la piste du loup revient.
Bah, on peut encore tout imaginer. À partir du moment où on n'a pas les causes de la mort, on peut imaginer qu'il est mort par accident, qu'il a fait une chute, qu'il l'a tué, que peut-être moins probable, mais un animal sauvage l'a attrapé et que son corps n'ait pas été découvert à l'époque et qu'au faveur des tempêtes, des ruissellements, etc., on ait découvert son corps. On peut imaginer ça. On peut toujours imaginer un meurtre. Que quelqu'un de mal intentionné, volontairement ou involontairement, a tué Émile et a fait disparaître son corps, corps qui réapparaît beaucoup de mois plus tard. Malheureusement, sur les raisons de sa mort, tout est encore envisageable. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est visiblement resté à proximité du Haut-Vernay.
Ce serait la première attaque mortelle de loup depuis 1903, si je ne me trompe pas, en France. Donc même si c'est un loup, on est quand même dans une dimension complètement... complètement folle dans cette histoire.
Moi, je ne sais toujours pas où est le point zéro, si vous voulez. Je ne sais toujours pas où est-ce que le corps en entier a été disposé avant qu'on ne retrouve le crâne ici, la chaussure là et le t-shirt à l'autre endroit. Donc, ce que je voudrais comprendre, moi, c'est le trajet. Et à quel moment il a pu donc échapper à la vigilance des chiens. Alors, on nous a expliqué que comme il faisait très chaud, les chiens nifleurs n'avaient plus pu pister. Est-ce que cet enfant s'est égaré? Est-ce qu'il s'est assoupi? Est-ce qu'il est tombé sur une souche? Est-ce qu'il tout de suite il a été happé par un animal? Est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre? J'y crois de moins en moins, mais en fait il y a encore beaucoup beaucoup de questions. Il faut voir aussi comment est-ce que les enquêteurs vont exploiter tout ce qui leur est remonté des labos et des échantillons. Ils ont prélevé beaucoup de choses. L'IRCGN, ils sont descendus en masse sur le site. Ils ont fait beaucoup de prélèvements. On a eu, je pense, des résultats partiels, mais est-ce qu'on a eu les résultats définitifs? Je ne le crois pas. Donc ouais, moi je pense qu'on peut encore avoir...
Est-ce qu'un jour on saura?
Bah moi j'espère, avec les progrès scientifiques, on se rend compte qu'il y a d'autres dossiers criminels qui sont revisités. Encore une fois, la science au service de l'enquête, ça peut débloquer des choses. Il faut espérer que là, les scellés ont été conservés dans de bonnes conditions, contrairement à d'autres affaires anciennes où on ne savait pas bien conserver les scellés. Là je pense qu'ils sont quand même bien au courant de comment est-ce qu'on conditionne les scellés. J'espère qu'on aura des réponses, mais c'est assez intéressant qu'on ait encore autant de questions au moment où on se parle.
Pendant 12 mois, les enquêteurs ont fermé des pistes, mais paradoxalement, un an plus tard, toutes les issues restent ouvertes. Qu'est-il arrivé à Émile? Peut-être que l'anniversaire de la disparition de l'enfant, le 8 juillet, fera remonter des souvenirs. Ou un indice. Peut-être qu'un jour nous connaîtrons la vérité et nous sortirons de l'impasse du Haut-Vernay.